Alors ce matin, on peut replonger dans cette double prédication. Donc, il y a deux semaines, j'ai commencé avec image et vérité, décrivant le mieux l'amour de Dieu. Et là, c'est la deuxième partie. Et là, on avait commencé avec Jean 1, 29 comme verset important qui dit « Voici, en parlant de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, je vais faire une brève récapitulation par rapport à ce qu'on a vu il y a deux semaines. Donc, dans l'Ancien Testament, il existe un concept véhiculé par une image et par un mot en hébreu. L'image qui apparaît pour la première fois en Exode, alors donc avec Moïse, justement, comme on a vu ce matin, c'était l'image de le propitiatoire. Et donc, le propitiatoire, comme on avait vu, c'était l'Arche de l'Alliance, il y avait un couvercle par-dessus l'Arche de l'Alliance, et là, c'est le propitiatoire, c'est ce couvercle qui était sur l'Arche de l'Alliance. Et là, naturellement, je ne reviendrai pas sur toutes les choses que j'ai partagées là-dessus, le message est disponible sur Internet. Le mot, lui, apparaît aussi pour la première fois en hébreu, même si on a vu qu'en Genèse, il apparaît, mais pour une autre circonstance avec l'Arche. Mais ici, il apparaît pour la première fois avec cette idée par rapport au péché, qui était le mot qui est kafar, qui est le mot de couvrir. Donc, cette idée, justement, le couvercle, donc le propitiatoire, qui est le couvercle, et le mot kafar, bien, couvrait. Alors, donc, on voit les deux qui vont ensemble, un qui est un couvercle, et l'autre qui est justement l'idée de couvrir. Et naturellement, sur le couvercle, le propitiatoire, le sacrificateur aspergeait de sang avec son doigt ce propitiatoire-là pour montrer que le sang qui avait été versé allait couvrir l'offense qui avait été faite contre Dieu. Et là, j'ai montré aussi que le mot « kafar » n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de ce que Christ a fait par son sacrifice. Et là, on a essayé de voir, mais pourquoi? Pourquoi ce mot-là spécifique, avec cette idée de couvrir les péchés, n'était pas un mot approprié pour définir ce que Christ avait fait pour nous par son sacrifice sur la croix? Et là, ici, j'ai montré dans Hébreux 10, 1 à 22, justement la différence, moi j'ai appelé ça la supériorité du régime de la grâce en Jésus par rapport au régime de la loi qui avait été établi en Moïse. Et là, ici, il y a 12 éléments que je répéterai pas encore ce matin, mais comme vous voyez, là, le dernier, c'était que le régime de la loi en Moïse, bien, c'était extérieur, les lois étaient écrites sur des pierres et sur des esprits non régénérés, parce que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas vécu la régénération de leur cœur et de leur esprit, de leur âme. Tandis que dans le régime de la grâce en Jésus, on voit que maintenant c'est intérieur, c'est-à-dire que les lois sont écrites et gravées sur des cœurs et des esprits nouveaux, renouvelés, régénérés. C'est une immense différence. Et de là, la supériorité du régime de la grâce en Jésus. Et là, il y en a entre 11 autres que si vous voulez les reviser, bien juste encore là, allez voir sur le site de l'Église. Et donc, de tout ça découlait cette déclaration. Le sacrifice de Jésus sur la croix ne fait pas juste de couvrir les péchés, comme si là Dieu avait simplement mis une couverte par-dessus les péchés en les mettant de côté puis les entassant quelque part. Mais en plus de les couvrir, le sacrifice de Jésus sur la croix ne fait pas juste de couvrir les péchés et de rendre Dieu propice à notre égard. Donc là, Dieu disait, OK, je ne manifesterai pas ma colère envers celui qui a péché contre moi, mais en plus, il les enlève complètement et il nous rend parfaitement pur et saint devant Dieu. Ce qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, par les sacrifices nombreux qui étaient faits, des sacrifices d'animaux. Les péchés n'étaient jamais enlevés, étaient seulement couverts, étaient seulement mis de côté, tolérés par Dieu. Et naturellement, les Israélites n'étaient jamais vraiment parfaitement purs et saints devant Dieu. Dieu en tenait compte qu'un jour, Jésus allait venir, mais tant et aussi longtemps qu'il ne venait pas, ça serait comme ça. Maintenant, on va voir, et là, c'est là qu'on continue ce matin, on va voir le concept d'expiation, de propitiation et de victime expiatoire ou propitiatoire, mais là, dans le Nouveau Testament. Alors là, on voit que dans l'Ancien Testament, le mot, par exemple, kafar, est traduit par expiation, souvent comme le Yom Kippour, le jour des expiations. Alors pourquoi ici, c'est pas la même chose, c'est le même mot? Mais c'est ça qui est différent. Dans le Nouveau Testament, les mots qui sont utilisés sont pas les mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament en hébreu et même dans la traduction en grec de l'Ancien Testament, qui est la Septante. Parce que c'est de l'idée de couvrir dans l'Ancien Testament. Donc, l'expiation dans l'Ancien Testament ne faisait que couvrir le péché. Tandis que dans le Nouveau Testament, ça va justement dans un sens beaucoup plus loin, beaucoup plus complet, on pourrait dire ça comme ça, de ce que Jésus est venu faire. Donc, on va commencer par expiation et propitiation, qui est le mot en grec « ilaskomai ». Et là, regardez bien Hébreux 2, 17. Ça dit clairement, c'est Jésus qui a fait l'expiation ou la propitiation, et là, c'est traduit des fois dépendamment de la traduction, un ou l'autre, mais c'est le même mot. Alors, lui a fait ça par rapport à nos péchés. Et là, je vais le lire. « Aussi devait-il, en parlant de Jésus, devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation ou la propitiation des péchés du peuple. » Maintenant, Luc 18, 13. Et là, on le voit ici d'une façon un peu différente. C'est l'histoire du publicain. Et là, on voit ici que la prière de repentance qui vient du cœur. Et ici, il n'y a pas d'allusion à un sacrifice quelconque, là. Ici, c'est simplement une prière faite par quelqu'un qui, là, est conscient de son péché et qui, comme on voit, il se frappe la poitrine puis demande à Dieu d'être apaisé. Il demande à Dieu, que la colère de Dieu soit apaisée. Et le mot qui est là, c'est justement le même mot, « ilaskomai », alors que la colère de Dieu soit apaisée envers lui. Et là, on voit que par une simple prière, une prière de cœur, une prière de repentance, Jésus dit, cet homme, non pas le pharisien, qui le pharisien a observé tout ce que la loi demandait, a fait exactement, puis là, on le sait que Jésus ne remettait pas en question la pratique religieuse des pharisiens, mais il disait, ça va pas assez loin. Vous vous occupez des choses particulières qui sont écrites, vous en restez là, et là, vous allez au détail de la loi. Mais en ce qui concerne l'intérieur, vous vous en souciez pas. Tandis que Jésus ici vient montrer qu'un homme qui lui est un publicain, donc on pourrait dire une personne de mauvaise vie, n'aime pas quelqu'un d'exemplaire, pas quelqu'un de vertueux ou de pieux, et par sa simple prière, parce que sa prière est une prière de cœur, est une prière de repentance, et lui, il demande à ce que la colère de Dieu soit apaisée par rapport à son péché. Et Jésus dit, lui, il est retourné dans sa maison, puis il était justifié, il était correct avec Dieu. C'est comme si Dieu a agréé sa prière de repentance, comme si sa prière avait été comme un sacrifice sanglant qui avait été offert, puis Dieu a apaisé sa colère par rapport à lui. Et là, Jésus fait référence à sa repentance, à sa prière de repentance, sa prière de cœur. On voit aussi victime expiatoire, qui est associé un peu à ce qu'on vient de voir, qui est là le mot ilasmos, ou propitiation, qui est ilasterios, donc qui demeure dans la même famille de mots en grec. Et là, on le voit par exemple dans 1 Jean 2:2, Jésus est la victime expiatoire, et là c'est le mot ilasmos, pour nos péchés et ceux du monde entier. Donc, Jésus est cette victime qui a été sacrifié. 1 Jean 4:10 dit aussi que c'est Dieu qui, par amour, a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Donc, on voit ici que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est à cause de son amour que Dieu a fait ça. Alors, c'est des versets vraiment importants. Mais là, maintenant, regardez bien Romains 3, 25. Et là, ça devient très clair ici qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça dit, c'est Paul ici qui écrit, c'est lui que Dieu, en parlant de Jésus, a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est le mot hilasterios, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé, quoi? Impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il avait laissé impunis les péchés malgré les sacrifices sanglants. Et ça, on l'a vu dans Hébreux 10, comment les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas pardonner les péchés, dans le sens, il les couvrait, mais il ne les enlevait pas. Il faisait simplement de les couvrir. Il fallait absolument que Christ vienne et que Christ meure sur la croix. Les sacrifices d'animaux, peu importe le nombre qui aurait été offert pour les péchés, n'aurait jamais pu les enlever, n'aurait jamais pu enlever complètement les conséquences que les péchés allaient entraîner sur les êtres humains. Et ça, c'était la condamnation. Ça, c'était le fait d'être pour l'éternité séparé de la présence de Dieu. Donc, Dieu tenait compte dans l'Ancien Testament qu'un jour, son fils allait venir. Et c'est pour ça que sa patience a emmené les péchés qui auraient dû être punis à être impunis. Et là, grâce à Jésus, par contre, il est la vraie victime propitiatoire. Puis là, ici, les mots propitiatoire, propitiation ou expiation communiquent une idée différente que celle dans l'Ancien Testament. Communiquent ici l'idée d'apaisement, l'idée de satisfaction. C'est-à-dire, la colère de Dieu a été apaisée et la justice parfaite de Dieu a été satisfaite, pleinement satisfaite, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Autrement dit, la mort de Christ a pleinement satisfait les exigences de Dieu en ce qui concerne sa sainteté et sa justice. Le péché qui a offensé Dieu a provoqué sa colère contre ceux qui ont péché. Et là, Dieu, dans l'Ancien Testament, a été patient, a toléré et a couvert et mis de côté les péchés de ceux qui offraient ces sacrifices et de ceux qui voulaient justement que Dieu leur pardonne. Maintenant, il est clair dans Romains 3, 25 et aussi dans Hébreux 10, comme on a vu au verset 4 et au verset 11, que les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas pardonner les péchés et qu'ils étaient donc restés impunis jusqu'à la venue de Christ. Sans la patience de Dieu et sans sa provision temporaire qu'il avait donnée aux Hébreux d'offrir des sacrifices d'animaux, tous les hommes auraient été détruits et envoyés en enfer. Tous les hommes auraient passé l'éternité séparés de Dieu et en enfer. Aucun homme, aucune femme, peu importe qui il est, peu importe la gravité, le nombre de ses péchés, un seul péché nous prive de la gloire de Dieu. Et là, on a tous péché devant Dieu. On a tous commis quelque chose pour lequel on est coupable, on aurait été reconnu coupable. Imaginez-vous, Jésus va même dans le Nouveau Testament à dire, non seulement si vous avez commis l'adultère, mais en plus si vous avez eu des mauvaises pensées envers une femme en la convoitant dans votre cœur, vous avez péché. Et là, on voit jusqu'où Jésus va. Il va beaucoup plus loin. Et même, il va jusqu'à dire que même les choses qu'on aurait pu faire de bien, imaginez-vous, pas juste les choses mal qu'on a faites, mais même celles qu'on aurait pu faire de bien, puis on l'a manqué, on l'a laissé passer, on a fermé les yeux, ben on a péché par omission. Et ça, c'est, on voit l'ampleur de la sainteté de Dieu et à quel point on aurait été coupable devant Dieu. Alors, seule la mort de Christ pouvait satisfaire la justice parfaite de Dieu et par conséquent apaiser sa sainte colère contre le pécheur et le péché. Maintenant là, la question que j'ai dit que j'allais aborder aujourd'hui, c'est celle-ci. Pourquoi le sang d'animaux innocents, qui était sans défaut et sans tache, qui faisait partie des exigences, ne pouvait pas expier dans le sens d'effacer les péchés des hommes? Pourquoi? Et là, je vais essayer de vous le démontrer. Je l'avais mentionné quand j'ai fait la série dans l'Évangile de Jean, justement au chapitre 1 avec le verset 29. Alors là, je vais revenir, mais d'une façon même un peu plus détaillée, systématique. Premièrement, Romains 3, 23 établit comme vérité et fait très important que le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Et là, ici, c'est peu importe, comme j'ai dit tantôt, la nature de ce péché-là ou la gravité du péché. Parce que dans notre société, malheureusement, on se considère comme une bonne personne simplement si on n'a pas fait des choses horribles comme abuser des enfants ou tuer quelqu'un ou violer ou des choses comme ça. Mais on voit que dans la parole de Dieu, c'est pas de cette façon que le péché est seulement considéré. Même des péchés d'attitude, des péchés de parole, des péchés d'omission, des péchés d'action, des péchés d'intention, de motivation, des péchés d'attitude, de pensée. Imaginez-vous là, comment est-ce qu'il y en a de ça, comme si tout à coup, là, tout ça montrait au plafond, là, toutes ces choses-là que je viens de dire, la semaine qu'on vient de passer, puis que chacun aurait tout ça, ou sous le grand écran ici, on serait tous en train de regarder par en bas, ou peut-être d'être curieux, puis de voir, oui, Benoît, c'est quoi qui a péché cette semaine? Et en attitude, en motivation, en pensée, en action, en omission. Alors, on est tous coupables. Donc, Romains 3, 23 dit, il n'y a pas de distinction, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, en parlant de la présence de Dieu. C'est impossible d'aller dans sa présence, d'aller dans sa gloire. Le péché est fondamentalement et viscéralement une offense, premièrement, contre Dieu. Alors, c'est aussi contre d'autres personnes, mais c'est premièrement et viscéralement contre Dieu. Si Dieu n'avait pas dit telle chose est mal, le péché n'existerait pas. C'est Dieu qui a établi la norme. C'est Dieu qui a tracé la ligne. Puis il a dit, ça c'est bien et ça c'est mal. Et là, comme on voit ici, le péché nous sépare de la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint, naturellement, et rien d'impur, ni de souillé, nous dit Apocalypse 21, 27, ne va entrer dans sa présence. Alors, il faut être à 100% pur pour penser qu'on va aller au ciel. 100%. Il n'y a pas une petite tache. Il n'y a pas rien là. Dans nos poches, qui doit être là, qui est impur, ça passera pas. Alors, imaginez-vous, là, c'est une note de 100% qu'il faut avoir par rapport au commandement de Dieu. Parce que, comme André a mentionné la semaine passée, il y a deux chemins. Il y en a un qui est large, puis il y en a un qui est étroit. Celui qui est large, la plupart l'empruntent. Puis l'autre qui est étroit, il y en a moins qui l'empruntent. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? On le voit un peu dans le reste du texte, comme André l'a expliqué, que c'est pas ceux qui disaient « Seigneur, Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela en ton nom, on a fait ceci, on a fait cela en ton nom. » Comment se fait? Puis Jésus dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Tandis que le chemin étroit, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur le chemin étroit? Et qu'est-ce que ceux qui sont sur le chemin large font? Autrement dit, ceux qui étaient sur le chemin large, il y en a là-dedans qui pensaient vraiment qu'ils s'en allaient vers le ciel. Et pourquoi ils vont pas, malgré tout ce qu'ils ont fait? Tandis que le chemin étroit, eux vont aller au ciel. Pourquoi ils vont, eux autres? C'est clair dans les Écritures, puis on le voit même dans le texte. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui disent, « Mais comment ça, Seigneur, tu ne nous laisses pas rentrer? On a fait toutes ces choses-là en ton nom. » Alors, sur quoi était basée leur confiance d'aller au ciel? Sur leurs œuvres. C'est ça qui est mentionné, que Jésus dit, ça fonctionne pas si tu bases ta présence pour aller au ciel dans le fait que tu as fait des choses pour Dieu, tu y entres pas. Parce qu'on peut pas rien faire pour gagner notre ciel. La seule façon, c'est de pouvoir venir à Jésus. Alors, on continue. Romains 3, 25 dit aussi que le péché doit être puni. Sinon, le mal va se propager, puis la justice, elle va être bafouée. Et là, on voit Romains 3, 25 dit, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. » Donc, par le sacrifice de Jésus, Dieu montrait sa justice. Dieu respectait sa justice, respectait le fait qu'il est saint et qu'il n'y a rien d'impur qui va pouvoir aller dans sa présence. Mais là, Jésus, lui, en étant la victime propitiatoire, permettait à Dieu de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il fallait que quelqu'un paye et les sacrifices d'animaux n'étaient pas suffisants. Pourquoi? Prochain texte, Exode 21, 24 à 25. Le principe ici, c'est que la justice de Dieu exige que la conséquence soit proportionnelle à l'offense. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, c'est le principe que l'on voit dans Exode 21, qui dit « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Donc, ce principe-là, qu'on appelle souvent « œil pour œil, dent pour dent », c'est qu'établissait que plus l'offense est grande et grave, plus la punition ou la conséquence doit être grande et sérieuse. C'était ça le principe de œil pour œil, dent pour dent. Il fallait que ça soit toujours proportionnel. Pourquoi? Parce que ça établissait la justice. Et vous allez voir tantôt, j'ai quelques exemples là-dessus. Lévitique, le prochain texte, Lévitique 24, 15 à 22. Donc, c'est aussi le principe d'équité, le principe de responsabilité ou d'imputabilité et le principe de restitution ou de réparation. OK? Regardez bien le verset, ou c'est quelques versets que je vais lire. « Quiconque maudira son Dieu portera le poids de son péché. » Donc, est-ce que ça, c'est grave? Quelle est la gravité de maudire Dieu? Celui qui blasphémera le nom de Dieu, celui qui maudira son nom, sera puni de mort. Donc, ici, si quelqu'un va jusqu'à maudire, blasphémer Dieu, il doit en subir la peine de mort. Toute la communauté le lapidera. Qu'il soit immigrant ou autochtone, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Ici, c'était le principe d'imputabilité et d'équité. Celui qui frappera mortellement un être humain va aussi être puni de mort. Donc, la gravité de son geste, parce qu'il a tué quelqu'un, il va en subir la peine de mort. Celui qui frappera mortellement un animal maintenant, est-ce qu'il va être puni de mort? Non. Il y en a qui ne sont pas contents avec ça parce qu'ils trouvent que les animaux ont la même valeur que les humains. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi qu'il y avait une valeur différente entre un être humain, une vie humaine, puis une vie animale. Il dit, celui qui frappera mortellement un animal le remplacera, vie pour vie. Alors, il a tué un animal, il va le remplacer par la même catégorie ou la même sorte d'animal. C'est le principe ici de restitution et d'imputabilité et d'équité, vous voyez? Il faut que ça aille avec l'offense qui a été commise. Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, donc il coupe une main ou il fait que sa main va perdre, est-ce qu'il va être puni de mort? Non, ça disait, il lui sera fait comme il a fait. Donc, encore là ici, le même principe qui était sous-entendu. Et là, je vous ai préparé un petit tableau comme ça. Offense versus conséquence. Donc, la cause, causer la mort d'un animal, il fallait simplement remplacer l'animal. Causer une blessure à quelqu'un, on devait subir la même blessure. Causer la mort d'un être humain, on devait être puni de mort, une vie humaine pour une vie humaine. Blasphémer le nom de Dieu, maudire Dieu, mépriser sa loi, il fallait être puni de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sacrifice pour un tel péché. Et il y en avait d'autres péchés comme ça, comme l'adultère et ainsi de suite, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains péchés qui n'avaient pas possibilité d'offrir un sacrifice animal. Ça ne pouvait pas compenser pour la gravité du péché. Maintenant, ma question. Qu'est-ce qui pouvait être offert à Dieu pour les péchés qui ont été faits contre lui? Ça ne peut pas être un animal. Ça ne peut pas être une blessure. Ça ne peut pas non plus être même la peine de mort. Ça ne pouvait pas expier ces péchés-là. Tout le tort que nos péchés ont causé à Dieu ne pouvait pas être compensé de façon équitable, proportionnelle et juste. en offrant des biens matériels, une compensation financière, une pénitence humaine, un sacrifice animal ou même une vie humaine. Pourquoi? Parce que la vie humaine, elle est imparfaite. La vie humaine ne vaut pas la vie de Dieu. On est humain et Dieu est divin. Donc, c'était impossible. Tout comme un animal qui a été tué, on prendra pas la vie humaine parce que la vie humaine est plus élevée que la vie d'un animal. Mais de même, la vie de Dieu est beaucoup plus précieuse, la justice de Dieu, la puissance, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, comparée à nous, on peut pas. C'est pour ça qu'on peut pas offrir à Dieu des sacrifices, on peut pas offrir à Dieu de l'argent, on peut pas offrir à Dieu des bonnes œuvres, on peut pas offrir à Dieu des pénitences. On peut pas offrir à Dieu une partie de mon corps, de me faire mutiler une jambe, un bras, quoi que ce soit. Ça ne vaut pas la grandeur de Dieu. C'est comme si quelqu'un tuerait un être humain aujourd'hui, puis ce qu'on offrirait à la place, on va lui donner un auto au conjoint qui a perdu l'autre, parce que on dirait, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure. Ça peut pas faire une affaire de même. Ça n'a pas de... Puis même des fois, on est scandalisé justement avec la justice humaine parce qu'on trouve des fois qu'elle est très peu équitable, que le péché n'est pas pris au sérieux ou que l'acte, l'offense qui a été faite n'est pas pris au sérieux. Alors, la seule chose... Et c'est là l'idée de l'agneau de Dieu, cette image maintenant du Nouveau Testament, c'est plus un couvercle, c'est une personne qui est Jésus-Christ. Et lui, son sang, le Fils unique de Dieu, 100% divin, 100% humain, 100% parfait, pouvait à la fois couvrir nos péchés, naturellement, mais en plus les effacer complètement et nous réconcilier avec Dieu. Vous voyez, ça prenait absolument quelqu'un de la même valeur que Dieu, puis en même temps qui est venu s'identifier à nous en tant qu'homme pour nous représenter devant Dieu, puis dire, moi, Jésus, homme, Dieu fait homme, homme à 100%, Dieu à 100%, j'offre ma vie et je prends sur moi le péché des hommes. Et c'est comme ça que Dieu a dit, justice est rendue. Ça satisfait pleinement qui je suis. Il n'y a aucun compromis qui est fait. La vie de Jésus vaut celle de son Père. Et c'est pour ça qu'il pouvait offrir sa vie pour chacun de nous et que nos péchés pouvaient vraiment, littéralement, être effacés comme si on n'avait jamais péché. Conclusion. Jésus a donné sa vie sans aucune obligation. Il n'était pas obligé de faire ça. On comprend ça. Mais il l'a fait volontairement et par amour pour son Père et par amour pour nous. Donc, il a aimé son Père, mais il nous a aimés aussi. Et c'est son amour qui l'a emmené à vouloir donner sa vie. Et là, on voit dans Jean 10, verset 11 et verset 17-18, où on lit, « Moi, Jésus, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Volontairement. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, donc on ne peut pas me forcer, là. Même si j'ai été emmené à la croix, je l'ai fait volontairement, j'ai laissé les hommes me traiter comme ils m'ont traité. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est pour ça que Jésus l'a offerte. Alors, le bon berger est devenu l'agneau de Dieu, agneau divin et humain, sans défaut et sans tache, sacrifié sur l'autel de la croix pour nous sauver parfaitement. Quelle image et quelle grande vérité de la grandeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et là, oui, le sang de Jésus-Christ, L'agneau de Dieu, 100% divin, 100% humain et 100% parfait, couvre nos péchés passés, présents et futurs, les efface complètement et nous réconcilie avec son Père. Ça, c'est notre position. Et là, Romains 8:1, aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Parce que quand la parole de Dieu dit dans Jean 1:29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il y a trois sens possibles que ça peut être appliqué. Comment est-ce que Jésus ôte, enlève le péché du monde? Est-ce que le péché est disparu de la face de la terre? Est-ce que les actions pécheresses ont disparu? Il n'y en a plus. Alors donc, ce n'est pas dans ce sens-là. Jésus n'a pas enlevé les actions pécheresses dans le sens qu'il n'y en a plus. À partir de son sacrifice, les hommes ne faisaient plus de péché. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas ce sens-là que Jésus ôtait le péché. L'autre sens qu'on voit dans les Écritures, c'est la nature humaine qui, elle, est faible et pécheresse. Et aussi la chair qui est attachée à ça. Donc, est-ce que Jésus a enlevé la chair? Est-ce que Jésus a enlevé la nature pécheresse, la nature humaine? Est-ce que quand il est venu par son sacrifice, il l'a enrayé? Non. Puisqu'on l'a encore. Puisqu'on lutte encore avec le péché. Donc, Jésus n'a pas enlevé toutes nos actions pécheresses. Jésus n'a pas enlevé notre nature ou notre capacité de faire des péchés encore. C'est quoi qu'il a ôté d'abord? Parce qu'il l'a ôté. La seule autre possibilité qui est donnée dans les Écritures, c'est qu'il a ôté la condamnation, comme on voit ici. Ce que Jésus est venu enlever, c'est la culpabilité, c'est la condamnation liée à nos péchés. Et c'est pour ça que Paul, ici, dans Romains 8:1, dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation, parce que Jésus a enlevé votre culpabilité. Jésus a enlevé votre imputabilité du fait que vous étiez sous la colère de Dieu, comme ça dit dans Jean 3. On n'est plus sous la colère de Dieu, parce que Jésus est venu enlever la peine que nos péchés avaient engendrée dans nos vies. Et c'est pour ça que maintenant, on est comme libéré, comme on a entendu la chanson tantôt. » On n'est plus condamné. On n'a plus à vivre sous la condamnation. Ça ne veut pas dire que notre corps, notre cœur ne nous condamnera pas ou que notre conscience ne nous condamnera pas de temps en temps et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'un Jean dit par rapport à ça? Bien, Dieu il est plus grand que notre cœur. Dieu il est plus grand que notre conscience. Et il regarde à qui? Il ne regarde pas à Benoît. Il ne regarde pas à moi en tant qu'être humain. Il regarde à Jésus qui est en moi. Le fait que je me suis... que j'ai accepté Christ et que je suis uni à lui et que lui est uni à moi et que là maintenant Christ est en moi, il vit en moi comme il vit en tous ceux et celles qui sont venus à lui pour le pardon de leurs péchés. Maintenant Dieu nous voit à travers son Fils et il n'y a plus aucune condamnation. Ça c'est disparu. Oui, vous allez lutter encore avec le péché. Oui, ça va venir que vous allez être découragé. Oui, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Comment se fait que... Mais juste le fait, pensez en train de vous demander pourquoi que vous avez encore des problèmes dans votre vie, pourquoi vous avez encore de la difficulté à faire confiance à Dieu, à vivre pour lui, puis que là, votre cœur est attristé juste à l'idée de ça, où là, vous venez de tomber dans le péché, puis là, vous êtes tellement attristé, vous êtes à terre, puis là, vous luttez avec la culpabilité, vous luttez avec le fait que vous avez encore offensé Dieu. N'est-ce pas là l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie? Hein? Parce que ce que le Seigneur fait quand il vient à nous, quand il vient s'unir à nous, et que là, nous, on est en lui, et il change notre cœur. Le péché, même s'il y a encore du plaisir, il y a encore de la force, il y a encore de la tentation, il y a encore un attrait sur nous à cause de notre, justement, chair qui est encore là, mais on n'est plus heureux là-dedans, on se satisfait pas là-dedans. C'est pour ça qu'on pratique plus le péché. Oui, on pêche encore, mais c'est différent. C'est pas la même dynamique qu'on a face au péché. On lutte contre le péché. On veut glorifier Dieu. On veut vivre pour Dieu. Ça, c'est vraiment la chose qui est la plus importante dans notre vie. Et on est toujours malheureux quand on retombe dans le péché. Je termine avec Apocalypse 5, 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni même sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Et là, Jean dit, je pleurai beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas! Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont quoi? Les prières des saints, de supplication, de repentance, de supplication à Dieu de dire « délivre-moi, sois apaisé envers moi ». Hein, les prières des saints, de louange, d'adoration, de reconnaissance, toutes ces prières-là, chacune de nos prières, en fait, lorsqu'elles sont faites en Jésus, sont accumulées dans le ciel, dans ces coupes. Hein? Pensez-y, là, certaines de vos prières, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a des prières qui sont égoïstes, un peu comme ça dit dans Jacques, des prières qu'on a faites dans le but de satisfaire nos passions, sont probablement pas là-dedans. Hein? Mais il y en a beaucoup d'autres prières, surtout des prières d'un esprit brisé, d'un cœur contrit. On dit, oh Seigneur, pardonne-moi encore. Je voudrais tellement, Seigneur, plus pécher. Je voudrais tellement vivre pour toi. Je voudrais tellement, Seigneur, que tu sois le tout dans ma vie. Dieu les voit, ces prières-là. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Jésus était le seul qui pouvait offrir un tel sacrifice et nous rendre ainsi une parfaite justice devant Dieu. Prions ensemble. Je vais vous inviter à vous lever. Et je vais inviter Fabien aussi. J'aimerais ça juste prier pour terminer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur, de ce que, grâce à toi, nos péchés ont non seulement été couverts, nos péchés ont non seulement été mis de côté, mais grâce à ton sacrifice parfait, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu et que tu es venu sur cette terre en tant que serviteur et tu as vécu une vie parfaite, une vie d'obéissance à ton Père en tout point et que tu n'as jamais péché, eh bien, tu pouvais être cet agneau de Dieu. Et là, nous maintenant, en nous tournant vers toi, bien Seigneur, tu nous offres un pardon complet, pas partiel, un pardon complet. Et la seule chose, Seigneur, que tu nous demandes, c'est d'ouvrir notre cœur, c'est de reconnaître notre impuissance, nos péchés, notre incapacité de nous racheter par nous-mêmes, de faire quoi que ce soit qui aurait pu faire une différence pour le pardon de nos péchés. Mais que seulement toi, Jésus, tu es complet et ton sacrifice est complet et parfait. Et maintenant, je peux avoir ce pardon complet et parfait grâce à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, tu l'as fait par amour. Tu l'as fait en pensant à moi. Tu le fais en sachant que si tu ne le faisais pas, il n'y avait aucune autre possibilité pour moi d'être pardonné, d'être racheté, d'avoir une relation avec toi, de pouvoir même espérer passer l'éternité avec toi et avec ton Père. Seigneur, ton amour pour moi est grand. Je le reconnais ce matin. Et je te demande, Seigneur Jésus, que je puisse vivre maintenant avec cette nouveauté de vie, comme tu m'invites à le faire. Que par ta présence en moi, Seigneur, malgré mes difficultés, malgré mes faux pas, que Seigneur, tu me ramènes toujours à la croix. Que tu me ramènes toujours à ce que toi tu as fait et non pas à ce que moi j'ai fait. Que tu me ramènes toujours, Seigneur, à reconnaître que j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin que ta vie puisse prendre de plus en plus de place en moi et que tu puisses être glorifié à travers cela, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que ta parole est claire. Et aide-nous maintenant, Seigneur, à se reposer entièrement sur toi, à pas se fier à nous-mêmes, mais à se reposer entièrement sur toi et à savoir que si on est en bon terme, que si tu es totalement de notre bord, c'est simplement parce que Jésus a offert sa vie en sacrifice pour chacun de nous. Alors merci, Seigneur, que toute la gloire te revient. Et touche les cœurs de ceux et celles, Seigneur, qui ont besoin de goûter à ton pardon grâce à ce que tu as fait sur la croix pour eux, pour elles. Et qu'ils le reçoivent, Seigneur, par la puissance qui est dans la croix, dans la puissance de ce que tu as fait, Jésus, qu'ils puissent recevoir la pleine certitude d'un pardon complet et parfait grâce à toi. Merci. À toi la gloire, Jésus. Amen.